Merci Corinne. Je me suis permis de vous inonder de documents pendant que vous avez le dos tourné. Alors c'est pas une offensive de charme de l'Amérique. Je sais que le projet Spielberg avait fait couler pas mal d'encre et suscité beaucoup de critiques à l'époque où cette grande opération de collecte de témoignages avait été réalisée, donc juste après la liste Schindler. Personnellement, moi, je travaille avec cet institut parce que donc c'est le Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. On dit plus simplement l'institut. Généralement, on dit aussi, pour se faire comprendre plus vite, la Fondation Spielberg. Donc moi, je travaille avec eux depuis novembre 2009. Et quand j'y travaille, en fait, j'ai une mission, si vous voulez. Donc je représente cet institut pour la France. Mais je suis, après une longue période de mise à disponibilité pour compétences personnelles, de 8 ans, j'ai repris les cours en septembre 2009, et donc je suis dans un collège à Colombes, en région parisienne, dans une ZEP, enfin qui est ZEP encore jusqu'à cette année, puisque l'année prochaine, nous ne serons plus une ZEP. Non pas parce que ça va mieux, mais parce qu'il n'y a plus de sous, voilà. Donc voilà, vous trouverez il y a trois choses en fait. Il y a la revue qui paraît donc régulièrement, je crois qu'il y en a trois numéros par an, publiés donc par l'Institut, qui donne des nouvelles générales sur le projet, les projets engagés, notamment en matière d'éducation par Internet. Et puis vous avez donc une leçon que j'ai constituée, mais qui a fait l'objet d'une relecture attentive par des universitaires, par des inspecteurs pédagogiques également. Et que nous venons de mettre en ligne, en fait, sur le site général, que je vous présenterai également, le site de l'Institut, et qui s'accompagne d'un DVD, puisqu'il, évidemment, tout ça est construit autour de documents, de témoignages filmés. Évidemment, tout ça c'est téléchargeable, mais j'ai pensé que ce serait bien que vous l'ayez sous les yeux au moment où je le présentais. J'aurais aimé présenter vraiment une leçon spécifiquement sur les justes ou sur les actes justes, parce que je voudrais évidemment ouvrir aussi un petit peu la définition. J'en ai pas eu le temps, je le regrette, mais dans cette leçon qui porte sur l'étoile jaune, vous verrez que tout n'est pas noir. J'ai fait une partie sur les actes de solidarité, notamment sur ces étoiles fantaisistes qui sont apparues avant même que la mesure soit mise en application. Donc juste avant, effectivement, fin mai 1942, on a des jeunes qui portent des étoiles fantaisistes et qui se font arrêter pour cette raison, et beaucoup termineront à Drancy pour quelques mois avec un bandeau ami des juifs qui leur sera imposé. Alors, je vais donc commencer par une petite présentation de l'Institut, qu'on connaît finalement assez peu, qui n'est plus domicilié à Hollywood. Ça nuisait à l'image générale du projet. Maintenant, les archives font partie de l'Université de la Californie du Sud. Elles sont vraiment un département à part entière, et beaucoup, beaucoup d'enseignants, et également de professeurs travaillent, de chercheurs travaillent sur ces archives. On construit des cours autour de ces archives, et bon, c'est un projet des plus sérieux, où le but n'est pas uniquement de tirer des larmes, j'espère vous le montrer. Non, je dis ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'appréhension et beaucoup de réticence en France vis-à-vis de tout ce qui vient des États-Unis, mais c'est un projet, donc l'Institut lui-même est une ONG, n'a pas de but lucratif, les archives qui sont mises en ligne, les leçons sont librement téléchargeables, et moi en tant que consultant, donc moi je représente la France, mais il y a des consultants dans différents pays, il y en a en Ukraine, il y en a même en Afrique du Sud, il y en a en Australie, il y en a dans pas mal de pays, une quinzaine de pays, et le but de la Fondation, c'est que en gros ces témoignages soient utilisés est mis à la sauce, entre guillemets, locale. C'est-à-dire que les enseignants, sans aucune pression de la part du siège de l'Institut, puissent utiliser en fonction des impératifs de l'enseignement, de l'éducation nationale, des programmes, etc., et des sensibilités nationales. Donc, nous disposons donc de 51 000 témoignages, donc relatifs à l'histoire de la Shoah. C'est donc en fait l'une des plus grandes vidéothèques numériques du monde. Ces témoignages ont été filmés donc dans 56 pays et dans 32 langues dans les années qui ont suivi, comme je l'ai dit, la sortie de la liste Schindler. Il y a donc eu une première phase de 1994 à 1999, donc phase de collecte des témoignages, des survivants de la Shoah, juifs pour la plupart, mais également tziganes, témoins de Jéhovah ou encore homosexuels. La Fondation a également filmé les récits des survivants de la politique eugéniste de l'Allemagne nazie, d'hommes et de femmes ayant aidé les persécutés, de libérateurs des camps ou encore de participants au procès des criminels de guerre. Une deuxième phase a débuté au début des années 2000 et nous conduit donc jusqu'à aujourd'hui. Elle vise en fait à rendre accessibles ces témoignages. Ces témoignages ont été numérisés et indexés. Ils sont donc désormais consultables dans un certain nombre de sites, partiellement ou dans leur intégralité. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. En France, on ne peut pas consulter. Vous allez me dire qu'est-ce que je fais là, mais je vais vous présenter quelque chose qui, j'espère, un jour sera consultable et accessible par l'ensemble des enseignants et pas que les enseignants. Mais le problème, c'est qu'effectivement, pour avoir accès à ce que je vais vous montrer, et encore, je ne vais pas pouvoir donc vous le montrer fonctionnant comme ça devrait fonctionner, il faut de la fibre optique, il faut ce qu'on appelle l'Internet 2, le réseau Rénateur. Et pour l'instant, en fait, on a effectivement des sites qui sont équipés en France. Je pense notamment à la Bibliothèque nationale de France, une connexion à très très haut débit. Mais pour d'autres raisons techniques, finalement, l'accord n'a pas pu se faire. Donc le site qui devrait bientôt être équipé, enfin en tout cas qui fait tout pour, et nous on travaille vraiment en cheville avec eux, c'est le mémorial du camp des Milles, qui devrait donc ouvrir à la fin de cette année, à l'automne. Sinon, le mémorial de la Shoah conserve les témoignages français, enfin en français, parce qu'il y avait aussi bien sûr des témoignages belges, etc. Et ils sont au nombre de 1800. Le problème, c'est qu'ils sont sur DVD. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les visionner intégralement. Mais l'intérêt de ce que je vais vous présenter, c'est qu'en fait, les témoignages sont indexés à la minute. Donc pour chaque minute, des étudiants armés de batteries de mots-clés ont, lorsque le programme déroulait, noté des éléments qui permettent effectivement de naviguer dans cette collection. Ça peut être effectivement tout et n'importe quoi. Ça peut être Montluc, ça peut être Garel, ça peut être donc la sixième, ça peut être la fin, les semelles, n'importe quel sujet qui regarde effectivement les parcours individuels et collectifs. Et puis ça peut être aussi des noms propres. Donc beaucoup de noms sont épelés. Enfin, c'est la consigne qui était donnée en fait aux interviewés de dire clairement le nom des personnes citées, afin effectivement de pouvoir les indexer. Voilà. Donc aujourd'hui, l'institut qui donc fait partie de la faculté des lettres, des arts et des sciences de l'université de la Californie du Sud cherche à développer des programmes éducatifs et culturels qui intègrent ces ressources audiovisuelles. J'ajouterais qu'il travaille avec de multiples partenaires pour faire progresser le savoir et la recherche par le biais des nouvelles technologies. Il y a vraiment, de ce point de vue-là, un énorme effort de réflexion qui est fait. Et j'ajouterais enfin que la Fondation aide à la collecte et à la préservation et à la valorisation de témoignages audiovisuels relatifs à d'autres génocides, notamment le génocide arménien, puisqu'un accord a été signé il y a environ un an avec un représentant de la communauté arménienne aux États-Unis qui a déposé 400 témoignages de survivants du génocide arménien destinés, pareil, à être numérisés, indexés, etc. Et également le génocide des Tutsis. Concernant la Shoah, la durée moyenne d'un témoignage est d'environ 2 heures. Certains peuvent être très longs, comme par exemple celui de Shlomo Venezia, cet Italien à qui on a rendu hommage encore récemment, donc lors de la cérémonie du 26 janvier à l'UNESCO, qui faisait partie des Sonderkommando. Et le témoignage dans les archives de l'Institut fait 8 heures. Les récits sont centrés sur la Shoah. Les survivants rapportent leur expérience de la persécution, de la déportation, leur survie dans les camps. Ils racontent la clandestinité, la résistance, les réseaux de sauvetage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les récits incluent l'avant et l'après-guerre, ce qui permet de resituer le parcours dans un temps assez long et de pouvoir finalement travailler non pas en histoire, mais également d'ouvrir sur de multiples réflexions en sociologie, en philosophie, même l'histoire des arts, je pense. Enfin voilà, ce qui nous est tombé sur la tête récemment, c'est vraiment, il y a des choses à exploiter qui sont intéressantes. Alors, je vais présenter plus en détail la collection, les outils de recherche et les possibilités d'exploitation pédagogique, donc à travers le dossier que je vous ai distribué. Mais avant cela, je souhaiterais faire quelques réflexions personnelles sur la problématique des justes, en essayant de montrer en quoi le témoignage audiovisuel est en mesure d'offrir des solutions utiles aux enseignants que nous sommes. Avec l'émergence de la figure du juste dans l'espace mémoriel et éducatif, l'enseignant peut avoir le sentiment d'être en mesure de résoudre une série d'équations complexes posées par l'enseignement de la Shoah, faire en sorte que cette histoire n'ait pas un effet traumatisant et stérilisant sur de jeunes consciences, qu'il rencontre un véritable écho auprès d'esprits chez qui la violence a parfois acquis un certain statut de banalité, qu'il fasse germer, au-delà de la compréhension même des événements historiques, une réflexion profonde et durable chez de jeunes citoyens. En bref, qu'il fournisse des orientations et des issues individuelles et collectives dans un univers qui est souvent fait d'horreur et d'abjection. Ainsi, la connaissance nécessaire des persécutions, de la déportation, du système concentrationnaire, de la Shoah par balle, est à même de s'enrichir d'une dimension positive permettant de ne pas désespérer du genre humain ni des valeurs humanistes. La figure du juste et, de manière donc plus ouverte, des actes justes permettent en effet tout cela à condition, pas trop de consonnes, d'accord. À condition que l'enseignant fasse preuve d'une certaine prudence et évite quelques écueils. Je vous en propose quelques-uns qui sont issus d'une réflexion personnelle également pratique. D'abord, le risque d'une relégation. Ça va, tout le monde m'entend bien? D'accord, parce que j'entends moins bien du coup. La relégation à l'arrière-plan de l'ampleur de la chaîne criminelle par la survalorisation des actes de sauvetage et le risque d'une élaboration mentale par les élèves d'un nouveau mythe résistentialiste, comme on vient juste de l'évoquer. Un procédé d'héroïsation, mais je pense qu'on va reparler de tout ça cet après-midi, voire de sanctification de la figure du juste, mettant ses actes hors de portée du commun des mortels et rendant par là même inutile et inopérante toute réflexion citoyenne. Il faut redouter, à l'inverse, toute démarche réductrice de l'acte juste visant à convaincre, avec des arrière-pensées militantes un peu simplistes, de la facilité de sa réalisation. Corrélativement, on peut se méfier également de toute tentative de hiérarchisation des actes en question. Il ne saurait être ici question de palmarès, et il en va du sauvetage des persécutés comme de tout acte de résistance. Les paramètres qui président à l'action sont multiples, et c'est bien de cette diversité et de cette complexité dont il faut rendre compte auprès des élèves. Il faut ainsi éviter toute dérive vers ce que je nommerais avec un affreux néologisme, une forme de challengeisation des actes justes, c'est-à-dire la représentation des actes sous la forme d'une compétition ou du défi, représentation favorisée par un vocabulaire dont les élèves ne mesurent pas forcément la teneur. Je pense notamment à médailles, diplômes, etc. Donc se mettre à l'écoute sous une forme audiovisuelle de la parole de ceux qui ont contribué à alléger le fardeau des persécutés, à sauver des vies, écouter également le témoignage de ceux qui ont bénéficié de cette assistance, ouvre de stimulantes perspectives en matière de pédagogie. Les sources et la démarche que je vous présente maintenant peuvent contribuer à déjouer certains pièges tendus par un sujet qui est plus complexe qu'il n'en a l'air. Alors, je vous propose donc une visite. J'espère que vous... Je suis pas certain que vous arriviez à lire exactement ce qui est écrit. Bon. Alors, je vais être très explicite. Alors, ça, c'est l'interface à laquelle vous n'avez pas, accès. Et je vais vous apprendre. Je vais le faire assez rapidement, mais je vais vous montrer effectivement ce qui permet de, enfin ce qu'il y a de pratique, notamment à travers cette question, cette décision d'indexer en fait chaque témoignage, qui permet vraiment de travailler rapidement. J'ai eu la chance donc d'aller visiter les locaux, enfin le siège de l'institut il y a un an à Los Angeles. J'ai passé 2 heures sur cette interface, 2 heures seulement. J'ai pu extraire très rapidement, tout de suite, en allant vraiment droit au but à partir de mots-clés, une série de témoignages que j'ai utilisés, que je vous présenterai après, enfin qui sont au centre de la leçon sur l'étoile jaune. Donc on a 4 modes d'accès au témoignage. Une recherche rapide qui permet effectivement de taper des mots-clés. Alors, si on tape par exemple righteous, parce que évidemment tout est en anglais, donc juste, on a immédiatement donc une série de résultats qui va s'afficher ici. On a donc 775 témoignages qui vont évoquer le témoin, soit qu'il soit juste lui-même, soit qu'il évoque un juste avec son nom, et non pas quelqu'un simplement qui l'a aidé, mais effectivement quelqu'un qui a été honoré. Voilà, donc ce sont les témoignages qui font référence au juste. On a ici l'ensemble des langues dans lesquelles, qui concernent ces témoignages. Si on prend la Pologne, on va avoir, alors tout de suite ça filtre, on tombe à 293. On peut évidemment choisir homme ou femme. Si on prend la France, on a beaucoup moins. On en a que 18. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer, à partir de ces archives, la réflexion sur les justes. On a effectivement quelques témoignages de justes qui sont vraiment très intéressants. Après, il y a une quantité de... C'est ça fourmi, si vous voulez, de... On parlait donc des policiers, on parlait des enseignants, etc. C'est truffé vraiment d'anecdotes qui sont vraiment très, très intéressantes, qui montrent la grande, grande diversité des actes d'aide et de sauvetage. Je vous propose... Par exemple, un petit peu d'image, de visionner quelques extraits. C'est un témoignage qui, alors si c'est inaudible, j'arrêterai. Le problème, c'est que voilà, il y a des témoignages, il y a eu vraiment des problèmes techniques.
Alors. Gabriel, oui. Oui. Je les ai pris tous les deux, parce qu'ils n'étaient pas question de me séparer. Mais il faisait partie d'un groupe d'une douzaine, une quinzaine d'enfants qui m'avaient été amenés par quelqu'un qui s'appelait Pierrette Salou, qui était une juive convertie au catholicisme. Et une conversion qui d'ailleurs n'a pas tellement duré par la suite. Et qui était quelqu'un d'assez remarquable. Mais nous avions pris toutes les précautions de manière à éviter le drame de Lisieux. Au lieu de concentrer des enfants dans un endroit, même si cet endroit semblait protégé, nous les avons au contraire dispersés. J'étais le seul à savoir où je plaçais les enfants.
Donc là, c'est en
mars 45. Voilà.
Vous avez 15 petits enfants.
Je ne sais pas si vous entendez. Non. Alors, on ne va pas s'attarder sur. Oui, voilà. Là, les questions sont. Alors, quand on utilise des témoignages en fait dans le cadre de leçons, on peut vraiment agir sur le son, retravailler. Il y a des techniciens qui font ça très bien. Je suis désolé, moi, je n'ai pas pu le faire avec mes petits moyens. Donc, je vais vous montrer d'autres choses qui sont plus audibles. Donc, si on a 18 donc témoignages, donc si je tape effectivement. Si je reprends l'exemple des justes français, voilà, donc lorsque j'ai effectivement obtenu un certain nombre de résultats, je me rends sur la page d'après, voilà, où j'ai donc une série de réponses. Je vais en afficher voilà, 50 par page. Voilà, donc ça, ce sont les témoignages. Donc le monsieur Romanet en question, il est ici. Si je clique sur lui, j'accède à son témoignage. Alors, pour des raisons pareilles qui m'échappent, Mozilla refuse d'afficher le. Enfin, on voit pas l'image, mais bon, c'est pas grave puisque de toute façon, je peux pas la montrer. On a donc les segments que vous voyez ici, ce sont justement ces minutes d'interview avec qui sont renseignées avec donc des informations sur les lieux, sur les personnes. Sur des expériences diverses, ici des activités culturelles au segment 25, le service militaire, la conscience des événements politico-militaires avant la guerre. On va avoir donc le parcours, on va pouvoir vraiment le suivre assez facilement. Et l'intérêt de ces mots-clés, c'est qu'effectivement, on peut les taper directement ici pour aller droit au but. Et comme on peut aussi d'ailleurs avoir la liste des mots-clés qui sont proposés ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà, ici on va avoir les gens qui ont donné de l'aide, les gens qui ont bénéficié de l'aide, les différents mots-clés utilisés dans tout le témoignage, qui fait ici, donc il y a 5 bobines de 30 minutes, ce qui nous fait donc 2h30, Et à l'aide de ces mots-clés, je peux intervenir directement sur le témoignage en cliquant donc sur le segment en question immédiatement. Donc, si bien sûr ça fonctionne en streaming, ce qui n'est pas le cas ici, j'accède directement à l'extrait que je veux visionner. Alors, on parlait donc des actes justes, et je veux vous montrer donc l'exemple d'un témoignage qui cette fois est assez audible, qui montre, qui est intéressant parce qu'on peut voir effectivement la chaîne des solidarités. C'est un témoignage où j'ai pris sur 5 minutes, j'ai fait des petits, j'ai fait des coupes. Alors c'est pareil, c'est fait avec mes petits moyens, donc j'ai pas pu faire des fondus entre chaque coupe, donc c'est un petit peu brut, mais ça vous donne une idée effectivement des choses qui sont racontées et qui peuvent être aussi utilisées en classe. Là, je crois que par contre, ça va être plus fort. Donc,
La rafle du 16 juillet 1942.
Alors, pardon. Merci. Ça, je crois que c'est bien. Donc, ce monsieur, en fait, raconte comment il a échappé à la rafle. Je vous signale juste, mais ça vous échappera pas, qu'au début, il explique que ce sont les Allemands qui sont venus prévenir la veille qu'il y aurait une rafle. Évidemment, il y a peu de chances que ce soit des Allemands. Bon, je vous laisse visionner.
La rafle du 16 juillet 1942. Et alors, les Allemands étaient venus la veille, donc... je devais aller avec elle, partir avec elle le 16 juillet.
Mais
justement, comme la concierge nous a prévenu, ma mère a essayé de contacter justement les gens chez qui j'étais en vacances en 1941 pour demander s'ils voulaient bien me prendre pendant qu'elle partirait. Donc, ils se proposaient même de prendre ma mère avec moi. Chez ces gens. C'est monsieur et madame Cauchois à Évêquement. Ils avaient 4 filles et j'étais le 5e enfant et j'étais le petit frère ou le fils de la maison. C'est-à-dire la fille de monsieur et madame Cauchois travaillait à Paris et elle venait, si vous voulez, assez souvent voir ma mère pour lui apporter des légumes, par exemple, du jardin et on était restés en très bon terme. Et alors, le 15 juillet, elle a rencontré ma mère, et ma mère lui a dit qu'on venait nous chercher le lendemain matin, donc elle a téléphoné à ses parents pour savoir si elle pouvait m'emmener. Et alors, ses parents ont dit oui tout de suite. Et alors, le maire du pays m'avait fourni une carte d'alimentation, et tous les enfants me connaissaient sous le nom d'Henri Michel. Et je pense que le maire a couru de gros risques. Je pense que le maître de l'école savait aussi que j'étais un enfant juif, parce qu'il ne connaissait pas d'enfant, de garçon à cette famille Cauchois.
Voilà, ça c'est un témoignage que je trouve intéressant, parce qu'on peut vraiment voir justement cette chaîne de solidarité entre le policier qui vient avertir, la concierge qui fait suivre, la famille qui cache, le maire qui fait des faux papiers et le maître d'école qui ne pipe mot. Ça, on a un exemple assez intéressant à présenter aux élèves éventuellement. Je vous montre encore un témoignage, celui d'une jeune israélite qui pareil a échappé à la rafle parce que la famille a été prévenue et qui pendant 2 ans a été cachée dans un appartement. Donc, enfin, avec sa famille, toute la famille a été cachée et là, elle raconte en fait les craintes de la maman.
Une des craintes que maman avait, c'est que la jeune fille qui s'appelle Suzanne.
La jeune fille de la maison, la jeune fille de la famille, pardon, qui cachait en fait la famille. Je vous remets.
Que maman avait, c'est que la jeune fille qui s'appelle Suzanne était jeune et belle. Et elle était en âge de trouver un jeune homme à son goût et on ne sait pas sur qui il pouvait tomber. Alors elle avait peur que le secret soit divulgué. En définitive... elle a fait la connaissance d'un très très gentil jeune homme qui s'appelait André Bastian, et à la libération elle l'a épousé. Mais lui, alors entre temps, il a partagé le secret, il savait qu'on était là. Ils ne nous ont pas dit qu'il lui avait dit, mais on l'a su après. Il a partagé aussi les risques. Alors c'est des risques très grands. Bon, à la libération, nous avons aussi appris qu'elles ont caché dans leur maison de Créteil une autre famille juive pendant assez longtemps et ne l'ont pas dit. On l'a su qu'à la libération. C'était une famille de 4 personnes, des juifs turcs. Mais ces gens-là ont coupé l'éponge, je sais pas, ils ont peut-être émigré ensuite. Donc, elle n'a pas eu de nouvelles après. Alors ça, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, ils ont caché 2 familles juives. Pas seulement nous, mais une autre famille juive turque dans leur maison de Créteil, des 2 côtés. C'était absolument remarquable.
Voilà. Alors, il y a 2 autres modes pour accéder, pour localiser des témoignages. On peut d'abord taper des noms de personnes. On aura à la fois des réponses sur les interviewés, mais également lorsque les personnes sont citées dans des témoignages. Si on cite, par exemple, je vais prendre le nom de Klarsfeld, au hasard, on va avoir... Voilà. Des pages de Klarsfeld, donc ici il y a 37 pages de réponses, où on a à la fois parfois des liens, si c'est Béaté ou Arnaud qui a également été interviewé, puisque à l'époque il témoignait pour le procès Papon. Il témoignait. Il a témoigné dans le cadre de la collecte de témoignages pour son intervention dans l'affaire Papon. Et voilà, donc ça, on peut faire donc des recherches pour tous les noms. On a ensuite une possibilité de faire des recherches en utilisant les types d'interviewés. Ici, donc on a d'ailleurs un regard plus précis sur ce qui compose le fond. Les survivants juifs sont au nombre de 48 893. Des homosexuels, il n'y en a que 6, mais il y a quelques témoignages qui sont vraiment impressionnants. Prisonniers politiques, les Roms, les Tziganes, les criminels de guerre 62, les témoins de Jéhovah 83, des personnes témoins de la libération des camps 362, les personnes qui ont aidé, qui ont fait des actes de sauvetage 1132, des survivants de la politique eugéniste 13. Donc là, c'est pareil, on peut lancer des recherches. J'avais, juste pour vous donner une idée de la richesse du fond, je suis lié en fait au projet du camp des Mille, et je cherchais à l'époque des interviews des survivants, et on avait un mal fou à en trouver, parce qu'évidemment des personnes qui étaient passées dans les camps, qui étaient pour beaucoup d'origine allemande, autrichienne, etc., s'ils ont survécu, ils sont souvent partis à travers le monde, et sur place finalement on n'a pu vraiment localiser que 2-3 personnes. Le temps que la campagne d'interview se mette en marche, on en a perdu 2, et donc évidemment ça, c'était assez léger d'un point de vue image. Mon premier réflexe quand j'ai eu accès à cette base de témoignages, ça a été de évidemment de taper le camp des Mille, et j'ai trouvé 60 témoignages, donc de personnes qui étaient passées par les camps. Voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement il y a une richesse importante de matière que beaucoup de mémoriaux pourraient utiliser. Je pense bien sûr à Rivesaltes, mais également si on tape Montluc, on a des réponses. J'en ai parlé hier avec les personnes de Montluc. J'ai un survivant qui vient dans mon collège, et dont on a l'interview dans l'institut, qui décrit très très bien comment il a été en fait arrêté avec son père, interné à Montluc. Son père a été fusillé lors d'une action de représailles contre des internés qui avaient essayé de s'enfuir. Son père a été pris vraiment au hasard. Et une dernière façon d'accéder en fait à la base, c'est en tapant des mots clés librement ici, avec donc un système de... Alors, si je prends Montluc par exemple, on va avoir, voilà, il va faire une série de propositions. On verra ici que Montluc est utilisé, donc ça s'affiche sur la droite dans 36 témoignages. Donc si je sélectionne les 36 témoignages, je les fais donc passer dans la case qui se trouve ici. Et je peux après exercer le même filtre. Donc il y a 47 segments en fait, donc dans 36 témoignages où on a localisé le terme de Montluc. On en a en anglais, on en a en français. Si je prends uniquement les témoignages en français, j'en aurai 33. Voilà. Si je cherche des choses sur les justes, je vais donc taper writers, et je vais retrouver normalement mes 772 voilà, témoignage du début. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a effectivement, donc, tout est, comment dire, est sous-classé. C'est-à-dire qu'on a, beaucoup de, à partir de ces différents grands thèmes, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes. Si on prend par exemple discrimination responses, donc les réponses à la discrimination, adaptation et survie, adaptation, déception, s'échapper, s'évader, se cacher, et à chaque fois donc on a des propositions qu'on peut donc sélectionner. On a le descriptif qui va apparaître ici. On sait que eluding, alors là je vois pas dans ce contexte là ce que ça peut, ce que ça signifie, ou bon, c'est donc un mauvais exemple, mais voilà, on peut effectivement aller très très loin dans la recherche de choses précises. Voilà, donc je vais arrêter sur cette présentation parce que c'est un, en plus c'est, je pense que c'est un peu frustrant parce qu'on, puisque vous pouvez pas vraiment l'utiliser pour le moment. Je vous propose de jeter un œil en fait à au document que je vous ai apporté, que je vous ai déposé avec le CD, qui est une leçon donc celle dont je vous ai parlé, que j'ai réalisée et que j'ai pu tester moi-même dans deux classes et qu'on vient de mettre donc en ligne et qui utilise ces témoignages. Et la connexion, c'est qu'effectivement il est grâce à cet outil, on peut vraiment accéder très rapidement à la matière. Et si je veux en parler avec vous, mais si vous êtes intéressé pour faire des projets, on peut toujours trouver des façons de procéder. Les lieux de consultation actuels en Europe de cette interface et la possibilité de l'utiliser à 100% de ses capacités, il n'y en a que 4 des lieux. Il y a Berlin, c'est ce qu'il y a de plus proche, il y a Salzbourg, Prague et Budapest. Ça peut faire un week-end intéressant et on pourra vraiment faciliter, enfin, si jamais vous êtes intéressé dans le cadre d'un projet, on peut vraiment faciliter non pas évidemment financer le voyage et l'hôtel, mais en tout cas l'accès, si on prend Berlin, c'est à la Freie Universität, on a des relais sur place qui ouvrent volontiers le centre pour accueillir des chercheurs qu'on leur envoie le samedi par exemple. Alors, ça, c'est l'interface, le portail général du site, donc USC Shoei Foundation Institute. USC, c'est l'Université de Californie du Sud. Et on a donc, d'informations, des ressources en langues étrangères. Donc, on a des choses ici en tchèque, en allemand, en espagnol, en français, en croate, en hongrois, en italien, en polonais, en russe, en slovène et en russe, ici. Et donc depuis peu, nous avons un portail français donc, qui informe d'une manière générale sur le contenu des ressources, donc un descriptif assez précis qui explique que 7123 témoignages font référence à la France, parce que naturellement, il ne faut pas se limiter aux 1879 témoignages qui sont en français, mais il y a aussi énormément de témoignages qui parlent, ou des témoins racontent leur expérience en France, puisqu'ils l'ont vécu en France. Donc depuis environ un mois, on a cette leçon sur l'étoile jaune, voilà, que je vous présente à présent. Donc la leçon, elle est composée, donc le matériel, il est ici, donc vous avez évidemment besoin d'avoir un vidéoprojecteur dans votre salle, mais en général c'est, enfin, j'ose espérer le cas pour tout le monde. Vous avez des PDF qui sont téléchargeables, c'est ceux que je vous ai imprimés. Et les différents 3 séries de témoignages qui font environ 4 minutes chacun, c'est ce que vous avez sur les DVD. Voilà, je me suis dit que si vous n'avez pas forcément de connexion Internet, ça pouvait aussi vous faciliter le travail si vous souhaitez éventuellement l'expérimenter. La leçon, c'est assez classique. Sur la première feuille qui compose le dossier, vous avez donc le déroulé général de la leçon, le guide, avec une présentation effectivement de cette mesure de la 8e ordonnance du 29 mai 1942, donc qui a rendu obligatoire en zone occupée le port de l'étoile. Ça ressemble à une fiche un peu technique, de pédagogique, où donc les objectifs sont décrits en dessous, les objectifs cognitifs, mais également donc les objectifs méthodologiques. Intégrer des sources audiovisuelles dans la démarche d'apprentissage, analyser des sources audiovisuelles, utiliser et mettre en relation divers matériaux historiques dans l'analyse historique, et croiser des témoignages. Ce qui est intéressant, et je vous ai fait la remarque pour Henri Razewski, qui effectivement disait que les Allemands étaient venus la veille, et ils se trompaient, c'est qu'effectivement, dans ces témoignages, bien sûr, il y a des erreurs. C'est aussi intéressant de travailler avec les élèves sur la source audiovisuelle en elle-même, sur le témoignage, pour montrer que la mémoire, elle est faillible, qu'elle sélectionne. Et puis c'est aussi intéressant, on a des témoignages où il est clair que certains ont raconté leur histoire 300 fois, et d'autres, en fait, s'effondrent en larmes sans vraiment pouvoir le contrôler, parce qu'il y a des choses qui reviennent au moment où ils en parlent, et qu'ils avaient complètement enfoui au fond de leur mémoire. Donc c'est aussi intéressant de faire réagir les élèves sur ce type de constat. Et ici, le statut de l'erreur, lorsqu'il y a une date qui est donnée à la place d'une autre, c'est aussi ça peut être un élément qu'on peut utiliser dans un sens positif. Voilà, donc la leçon, elle s'articule autour de trois séries de témoignages, mais avant ça, donc, on l'introduit avec deux choses. D'abord, cette affreuse caricature sur le juif capitaliste, qui s'accroche à la. Cette caricature de juif qui s'accroche au monde, et cette affiche, les juifs assassinent dans l'ombre. Qui permet effectivement de rappeler un certain nombre de choses par rapport à des définitions. Donc il y a un petit glossaire à la fin qui est très succinct, mais qui rappelle ce que c'est qu'un stéréotype, ce que c'est qu'une, je sais pas si on a mis le mot caricature, mais ou ce que c'est que la stigmatisation, ce que sont les préjugés, etc. Après cette première réaction, donc alors pour chaque étape, si vous voulez, moi j'ai proposé des questions très simples. Il y a des réponses qui sont suggérées. Évidemment, tout n'est que suggéré. Je veux dire qu'évidemment, un prof est totalement libre d'utiliser exactement ce qu'il veut, de recomposer. De même que les réponses qui sont là ne sont pas les réponses spécifiquement attendues. Si certains élèves arrivent exactement à dire ce qu'ils ont, exactement ce qui est écrit ici, ils n'ont plus besoin de vous, plus besoin de nous en l'occurrence. Mais voilà, donc j'ai proposé des séries de questions. Avant de rentrer effectivement dans le témoignage, il y a ce PDF qui est celui-ci, le premier, qui permet effectivement de resituer l'étoile dans l'histoire, d'abord de montrer que les nazis n'ont pas tout inventé, et que cette mesure qui a frappé la France. Alors je ne sais pas comment on fait une rotation horaire ici. Ah si, affichage. Bon, j'aurais bien voulu le mettre dans le bon sens, mais tant pis, vous l'avez sous les yeux. Bon, enfin vous avez le document sous les yeux. La rotation ne marche pas. Donc on a une étoile hollandaise, une étoile allemande. Une étoile imposée en Hollande, un brassard de Croatie, l'étoile française, le décret du 19 septembre 41 imposé dans le Reich, et l'ordonnance la 8e ordonnance. Pareil, donc une série de questions visant à s'assurer que les élèves comprennent bien de quoi on parle, avec des réponses suggérées. Et on fait ensuite intervenir les témoignages. Alors c'est là vraiment que la leçon, disons, audiovisuelle commence. Je l'ai séparée en trois parties. La première, je l'ai intitulée « La découverte du juif ». Et la série de témoignages qui est présentée montre que pour beaucoup de ces enfants, parce qu'évidemment ce sont des enfants à l'époque, ils découvrent en fait à travers cette imposition de l'étoile, à travers ce marquage, ils découvrent leur judéité. Donc c'est leur réaction. La deuxième séquence, c'est l'agression comme une conséquence du marquage. Donc là, on va avoir effectivement une série de témoignages qui portent sur les coups reçus ou les insultes écopées. Et puis la troisième séquence, donc c'est là, elle rejoint la thématique effectivement. Alors des justes, on est très loin effectivement de l'acte juste, mais enfin des justes, de la figure du juste, mais effectivement de ces personnes qui ont voulu témoigner de leur solidarité vis-à-vis de ces personnes qu'on humiliait avec l'étoile, enfin qu'on marquait. Voilà. Il faut rajouter à cela. Je vais vous présenter un exemple de témoignage.
À cette époque-là, nous avions une amie concierge qui habitait pas très loin de chez nous et chez qui nous allions souvent. D'ailleurs, c'est elle qui a caché mon père par la suite. Et en sortant de chez elle, j'ai entendu deux femmes du quartier discuter sur l'étoile et qui disaient, vous vous rendez compte, un homme qui avait l'air si correct, son manteau s'est ouvert. Et devinez, j'ai aperçu l'étoile. Vous rendez compte, Pourtant, c'est un homme qui avait l'air tellement correct. Donc là, pour la première fois, j'ai compris qu'être juif, c'était quelque chose de pas correct. Et que porter l'étoile, c'était quelque chose de dégradant. C'est mon identité juive, je l'ai compris à ce moment-là en entendant discuter ces deux femmes.
Ah ben ça, c'était absolument... j'avais entendu... Je voyais mes parents avec cette étoile. Ma mère était couturière, donc elle repliait les angles jaunes, je me rappelle bien. Et elle nous a dit, je vais vous coudre ça. Et je me rappelle qu'elle me l'a mis sur un petit manteau. Et vraiment, je tombais complètement des nues. Parce que j'ai dit, je veux pas sortir avec ça. Mais elle m'a dit, tu es obligée, on est obligée. Et... je crois que j'ai marché, vous voyez, je mets toujours la même, je sais que je l'avais là. Alors là, je crois que j'y ai jamais pensé autant que depuis quelques jours, là. Mais je crois qu'elle est rentrée dans moi ce jour-là.
J'arrête là pour cette série-là. À la suite de la série, la première série, donc vous avez une série de questions qui sont proposées. Alors, c'est des questions très, très classiques hein, pour un enseignant. D'après ces témoignages, postérieur aux événements, quelle réaction le port de l'étoile provoque-t-il chez les juifs et chez les non-juifs? Comment Annette Bessman, dont en fait c'est la petite fille du Vel'Liv, hein, vous l'aurez reconnue, perçoit-elle cette obligation de porter l'étoile? Quelle attitude adopte un tel, etc., etc. Comme c'est une leçon qui, comment dire, qu'on peut faire sur facilement 2 heures, à mon avis, voire 3 heures, c'est un petit peu optimiste de le faire en 1 heure, moi je l'ai fait en 1 heure avec des élèves, ça a été mené un petit peu au pas de charge, mais du coup, j'ai pas utilisé certains documents que je propose ici, qui sont dans les polycopiés. Vous avez, après le polycopié numéro 1, on a rajouté en fait, parce qu'évidemment, il faut bien leur faire comprendre que ce sont des témoignages qui sont survenus 60 ans après les faits. Donc on a rajouté en fait deux témoignages d'époque, celui de Jacques Bilinki, qui était un journaliste russe à Paris, et celui plus connu d'Hélène Baer. On a obtenu l'autorisation de pouvoir reproduire également une copie de documents originaux pour pouvoir aussi rendre auprès des élèves les choses un petit peu plus palpables. Donc voilà, ce polycopier-là, enfin ce dossier, ça c'est ce que les élèves ont entre les mains. Donc ils peuvent effectivement utiliser les extraits du journal et on peut effectivement croiser, voir la vision de l'époque au moment des faits et puis la vision avec effectivement le travail du temps. En voyant notamment à travers les émotions de certains que le temps clairement s'est arrêté. On a donc ensuite une deuxième série de témoignages qui va porter sur les actes, les agressions. Alors pareil, je vous montre...
Enfin, vous savez, dans la tête des enfants, j'étais fier d'avoir... J'avais quelque chose qui me distinguait des autres. Vous voyez ? Je sais pas, c'est difficile d'expliquer chez un gosse, quoi, de se sentir différent. Et puis, ça a évolué parce que on s'est trouvé... Avec d'autres gosses, on s'est trouvé un peu mis au banc. On avait des copains qui n'étaient plus des copains. On s'écartait de nous, on s'arrêtait de parler quand on s'approchait.
Et puis alors, on allait à l'école, mais ça n'allait pas tellement bien parce que, bon, il a fallu porter l'étoile. Je me rappelle que ma mère avait cousu une étoile sur nos vêtements. Bon, elle s'était arrangée pour la mettre un peu cachée sur le côté. Et puis après, elle s'est aperçue que, certainement que c'était dangereux. Donc on l'a retiré, mais tout le monde savait qu'on était juifs, et on a eu des problèmes à l'école quand même, et puis surtout avec les camarades proches.
De quel type de problème?
Des problèmes d'antisémitisme.
Mais ils se manifestaient comment?
Ben ils nous traitaient de sales juifs, carrément. Ils ne voulaient plus jouer avec nous. Avec mon frère, on nous mettait à part. Alors, je me rappelle, où on habitait, il y avait une cour où tous les enfants jouaient. Et on jouait aux gendarmes, aux voleurs, mais nous, on nous interdisait de jouer. Alors on montait chez nous en pleurant, en disant « Bon, quoi, ils nous ont pas... » Et puis alors, il y en avait surtout un qui était très dur, un gamin, je me rappelle très bien de sa tête, avec sa sœur, qu'est-ce qu'il a pu nous embêter, celui-là. Puis alors avec mon frère, on disait « Ben, quand on sera grand, on lui cassera la gueule. » Et puis en fait, on lui a jamais cassé la gueule. Parce que après la guerre, on l'a revu. Et on s'est regardé dans les yeux. Et puis, avec mon frère, on s'est dit, mais merde. Et puis, hop, et puis il est parti. Et on n'a pas eu, l'instinct de lui casser la figure. Mais sans ça, je pense que quelques minutes après, on l'aurait fait quand même. Mais il s'est sauvé, on l'a jamais retrouvé, on l'a jamais eu dans nos pattes.
Voilà, et j'arrête là. Je précise aussi qu'on a fait la transcription de tous les témoignages. Donc, on l'a mis de côté polycopié, donc pour que les élèves les aient. Si on veut lancer par exemple un prolongement sur le travail, donc à la maison ou en classe, pour qu'ils puissent, sans avoir à reprojeter les témoignages, qu'ils puissent relire les témoignages sous la forme écrite. Donc pareil, là encore une série de questions. Et puis la dernière partie, donc qui concerne cette fois la manifestation des actes de solidarité. Voilà, c'est cette série-là.
Je me souviens très bien quand je suis sortie la première fois. L'état d'esprit dans lequel je me trouvais. J'étais à la fois très fière, je marchais d'un bon pas, mais en même temps très très inquiète et en regardant quand même autour de moi la réaction des gens. Quand je suis arrivée à l'école, il y avait d'autres petites filles comme moi qui sont arrivées avec l'étoile aussi. On est rentrées dans les classes et la directrice, qui était une femme extraordinaire, est passée dans toutes les classes en faisant un petit discours, en leur disant, voilà, certaines de vos camarades ont maintenant un insigne particulier, vous devez être très gentil avec elles, elles ont des problèmes très graves, soyez gentils, ne faites aucune remarque. Et effectivement, dans ma classe et même dans mon école, il n'y a jamais eu aucun problème.
Et quand je suis arrivée dans ma classe, la maîtresse a dit, vous avez deux filles de votre classe, vous voyez, on n'était pas nombreux en tant que juifs, deux filles de votre classe qui ont une étoile cousue sur leurs vêtements, soyez gentilles avec elles, ne dites rien. Et c'est là justement que je me suis aperçue qu'il y avait une deuxième fille juive. Je n'avais jamais su que cette petite fille-là était juive.
Par contre, mon frère qui a mis l'étoile a été également agressé. Mais là, dans son école, il y avait ce directeur, M. Herry, H-E-R-Y, qui était un homme profondément humain, qui s'occupait des enfants pauvres et tout, et auquel mon père, en tant que cordonnier, lui réparait des chaussures pour les enfants pauvres, a tout de suite dit que lui, pour lui, tous les enfants étaient les mêmes et qu'il ne tolérerait pas de bagarre dans la cour entre les petits-enfants juifs et les autres. Donc, mon frère a continué à aller à l'école jusqu'à la fin de l'année, puisque l'école finissait, je crois, le 14 juillet, à ce moment-là, en 42, puisque les vacances étaient du 14 juillet au 15 septembre, je crois. Donc, lui a été à l'école, moi, non.
Alors, ça, c'est un souvenir spécial, parce que c'était le printemps, l'été, il faisait extrêmement beau. Et il fallait un jour, comme ça, venir au lycée avec l'étoile juive accrochée sur le cousu sur le vêtement. Et mon souvenir, c'était que de très bonnes amies de camarades du lycée sont venues en haut du petit escalier de pierre qui était après les jardins, c'était le lycée Lamartine de Faubourg-Poissonnière à Paris, nous accueillir pour nous réconforter. Je crois une de ces petites jeunes filles-là était d'ailleurs très mignonne, un visage de médaillon absolument. Elle avait accroché sur elle, je savais très bien qu'elle n'était pas juive, elle avait accroché sur elle une étoile aussi, et nous a réconfortés en disant que de toute façon son parrain était juif aussi, il ne fallait pas nous en faire, et enfin marquer sa solidarité.
Et le premier jour où on a porté l'étoile, c'était, je crois, au mois de juin. Ça devait être au mois de juin 41. C'était voilà. Assez peu avant les rafles qui avaient dans le quartier. Avec des copains, on est sortis du quartier, justement. On n'est pas resté dans le quartier. Et avec l'étoile, on bravait un peu les gens parce que on en était fiers. Alors là c'est en vieillissant, vous voyez, il y a les souvenirs qui reviennent là. Il y a même des personnes âgées, enfin âgées, aujourd'hui je suis plus vieux qu'elles, qui sont approchés de nous, qui nous ont dit de la porter fièrement. Ils n'étaient pas juifs, bien sûr.
Voilà. Donc juste pour conclure, sur la leçon, je dirais que donc vous feuilleterez ça, vous verrez qu'il y a donc des choses sur les étoiles fantaisistes, donc une polycopie numéro 3. Il y a la transcription, également en annexe, enfin sur une autre feuille, vous avez la biographie des témoins, histoire effectivement de pas débarquer complètement par rapport à un témoignage, de savoir effectivement comment ça a commencé et comment ça a suivi. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, j'ai eu toutes ces personnes au téléphone récemment, et elles sont toutes encore en vie, même si elles ont été interviewées dans les années 90. Et puis voilà, on propose. Enfin, moi, j'ai imaginé deux trois activités. Évidemment, c'est pas forcément les mêmes au lycée, au collège. Au collège, il y a ce tableau qu'on peut remplir, qu'on peut renseigner, qui reprend en fait les grandes lignes de la leçon. Donc âge du témoin, donc des informations générales, mes premiers sentiments vis-à-vis de l'étoile, réaction d'hostilité vécue, lieu de déroulement, etc. Et puis des questions relatives à la source elle-même. Sentiments, émotions durant le récit, effet de la mémoire, ça va être effectivement les choses qui sont pas tout à fait justes, qu'on peut corriger, et le rôle de l'intervieweur. Est-ce que l'intervieweur est très présent, est-ce qu'il guide un petit peu trop, est-ce qu'il induit un peu trop le témoin dans ses réponses, etc. Voilà, juste pour conclure d'une manière générale, je voudrais dire qu'effectivement on est à une époque où les derniers témoins disparaissent ou vont pouvoir de moins en moins être mobiles. Le témoignage, c'est pas la panacée absolue, mais c'est vrai que c'est une source qui fonctionne en classe. J'imagine que vous l'avez tous déjà expérimenté, mais moi je suis vraiment frappé de voir que les élèves en fait réagissent. Évidemment, il n'y a pas d'interaction avec un écran, mais il y a des réactions lorsque les témoignages sont bien choisis. Et lorsqu'effectivement on peut articuler ça vraiment dans une progression et pas faire uniquement du témoignage quelque chose qui va venir à l'appui d'un propos juste comme une illustration, mais si effectivement on peut vraiment placer le témoignage au sein, enfin comme je dirais comme épine dorsale de la leçon, on a vraiment des choses très 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 intéressantes qui émergent au cours de la présentation. Voilà, donc moi je suis à votre disposition là dans le cadre d'une discussion éventuelle ou même par ailleurs je peux laisser également mes coordonnées. Si vous pouvez pas aujourd'hui consulter la base, si vous avez des projets sur un lieu ou un autre, on peut toujours s'arranger et favoriser certains échanges, éventuellement même communiquer des vidéos, etc. Voilà, je vous remercie.